Alain Baraton, on commence avec une devinette. Quelle différence y a-t-il entre les marrons et les châtaignes?
Au sens figuré, il n'y en a pas. Se prendre un marron ou une châtaigne revient exactement au même. Précision complémentaire, le nom botanique du châtaignier est Castanea, qui a donné castagne. D'un point de vue général, végétal, le marron est le fruit du marronnier et la châtaigne du châtaignier. Où cela se complique, c'est en cuisine. Le marron, le vrai, est toxique et ne peut donc être consommé.
Toxique, mais pourtant on mange de la dinde au marron et des marrons glacés.
Et de la crème de marron, ouais. Une tuerie. Ce que l'on mange, ce sont des châtaignes.
Alors pourquoi appelle-t-on certains fruits châtaignes et d'autres marrons s'ils sont finalement produits par le même arbre?
C'est maintenant que je vais essayer d'être simple. En général, les fruits appelés en cuisine marrons proviennent d'arbres cultivés par les hommes et modifiés avec le temps. Les bogues, ce sont les coques couvertes d'épines, ne contiennent alors qu'un fruit, un seul. Le châtaignier sauvage, lui, produit toujours des bogues avec à l'intérieur plusieurs fruits. Alors pour résumer, quand le châtaignier produit une bogue où il y a à l'intérieur un fruit, un seul, qui ne contient d'ailleurs qu'une seule amande cloisonnée, on parlera de marron. Lorsque le châtaignier produit un bogue qui contient plusieurs amandes à l'intérieur, qui chacune est cloisonnée, alors on parlera de châtaigne.
Eh ben, on a appris quelque chose ce matin. De quelle région du monde le marronnier et le châtaignier sont-ils originaires?
Ça, c'est assez amusant parce que le premier, l'Aesculus hippocastanum, est né dans les montagnes de Grèce et d'Albanie et il fut introduit en France en 1615. Je dis c'est amusant parce que quand Louis XIV décide de planter des marronniers un peu partout dans ses demeures, c'est un arbre qui devient extrêmement précieux, royal en quelque sorte. Et l'argent, le marron coûte très cher. J'avais estimé qu'un marron du temps de Louis XIV coûtait approximativement l'équivalent d'une centaine d'euros. C'est quand même, ce n'est pas donné. Alors des malins, bah, qu'ont-ils fait? Ils ont pris la direction des Indes pour amener quantité de marrons. Oui, sauf que le marronnier d'Inde, baptisé par erreur ainsi par l'aîné, vient donc de Grèce et d'Albanie. Le second, le châtaignier, le Castanea sativa, est originaire du sud de l'Europe, de l'ouest de l'Asie et du nord de l'Afrique. Il est aussi, par exemple, spontané en Corse, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que le marronnier est un arbre qui vieillit mal. Il est rare d'en voir des centenaires, contrairement au châtaignier, qui peut vivre plusieurs centaines d'années. Il en existe même des millénaires.
Alors vous parlez de toutes les régions du monde, est-ce qu'on en trouve en France?
Alors l'association Arbre, on a recensé quelques-uns. Alors l'association Arbre, j'en profite pour rappeler, c'est une association qui recense et qui se mobilise pour la défense des arbres qui ont une histoire, un passé, une rareté
botanique. Et ça, c'est votre dada, les arbres.
Ah oui, complètement. Eh bien, l'association Arbre a repéré quantité de vieux marronniers comme celui qui vit dans le quartier de l'Hérodire à Nantes ou celui de Kerseoc dans le Finistère. Il est âgé, écoutez, bien de 1200 ans. Et oui, Patrice et Martin, malgré son grand âge, il produit encore et toujours des fruits.
Ça fait un bon tour de taille, ça, 1200 ans.
Ah oui, c'est déjà un sacré pépère. Mais il est vrai qu'il y a en Bretagne des châtaigniers qui ont reçu la foudre, leur tronc est creux. Ils continuent tous les ans de produire des rejets, ils continuent tous les ans de produire des châtaignes.
Et la Corse.
Et ouais, et alors en Corse aussi, il y a des arbres absolument fabuleux, il y a des châtaigniers. Quand on s'arrête devant, on croit en Dieu.
Et les sangliers qui vont avec, évidemment.
Tout à fait.
Alain Baraton, vos conseils aux auditeurs, auditrices de France Inter. Corinne vous demande, comment éviter que mes courgettes, comme tous les ans, prennent la maladie?
Alors la maladie, généralement, de la courgette, c'est généralement, enfin le plus souvent, l'oïdium ou la pourriture grise. C'est souvent lié à l'humidité. L'automne arrive, les journées se rétrécissent, malheureusement, je parle de la luminosité, bien évidemment, et on ne pense pas que la terre, eh bien, est fraîche. La terre contient toute l'eau de la terre. Alors que faire, tout simplement? Isoler la courgette, isoler le potiron, isoler pour faire ça.
Et on fait comment pour isoler?
Eh ben, on met une petite planche, tout simplement. On met un carton par-dessous le fruit. On va ainsi, au moins, espérer récolter plus tardivement. Il faut également penser à espacer les végétaux. Il faut qu'une plante comme la courgette puisse respirer. Il faut qu'elle ait de l'air, il faut qu'elle ait de l'espace. Et si on procède ainsi, oui, on peut continuer à récolter des courgettes tardivement. Attention également au sol avec trop de fumure. Quand il y a trop d'azote, la plante n'aime pas. Et là aussi, cela peut favoriser le développement des maladies.
Paul vous demande, jusqu'à quand puis-je espérer récolter des tomates?
Eh bien, jusqu'à ce que le temps ne provoque pas la venue, là encore, des maladies dites cryptogamiques, comme le mildiou, comme l'oïdium, comme la pourriture grise ou comme l'anthracnose. Et oui, la tomate chope pratiquement tout. Alors que faire? Premièrement, si vous avez quelques pieds de tomate, essayez d'installer une sorte de petite toiture provisoire. 4 piquets, une tôle par-dessus, au moins pour protéger le pied de la pluie. Deuxièmement, n'arrosez surtout pas en ce moment le pied de tomate, le feuillage. Et puis, on n'y pense pas toujours. Vous avez les feuilles les plus basses, qui vont toucher la terre. Ben, c'est comme vous, Eric, vous prenez froid par les pieds. Eh bien, la pied de tomate prend peut-être froid également, parce que ces feuilles, qui sont les plus basses, touche la terre, là encore, la terre est humide, la maladie se met dans la première feuille et l'ensemble du végétal est contaminé.
Julie vous demande, qu'appelle-t-on rotation des cultures? Et puis aussi, au passage, quelle est son utilité?
C'est tout simplement éviter de produire au même endroit tous les ans les mêmes légumes, pour éviter que le petit campagnol qui s'est régalé de votre production de carottes ou de tomates n'ait pas à bouger en hiver et attendre simplement que l'année suivante, vous replaciez au même moment les mêmes aliments. En provoquant ça, vous obligez les animaux à se déplacer. Les insectes n'ont pas pris l'habitude de venir au même endroit. Et même les maladies. Quand vous avez une maladie qui affecte principalement tel légume, c'est l'année suivante qu'il n'y a pas le légume, il y a de fortes chances que la maladie ne disparaisse.
Régine nous parle de son voisin. Mon voisin me dit que si je laisse en place mes pieds de sauge, eh bien, ils repousseront l'année prochaine. Est-ce que c'est vrai?
À tout dépend. Il y a des centaines de variétés de sauge. Certaines sont effectivement vivaces et après une petite taille vont repartir au printemps suivant. D'autres sont gélives, elles sont annuelles. Dans quel cas, il faut connaître la variété de sauge. Mais toutes les sauges ne repartiront pas l'année prochaine.
Édouard est désespéré. J'ai beau tailler tous les ans ma glycine, eh bien, elle refuse de fleurir.
Logique. Quand vous taillez une glycine trop brutalement, vous encouragez le départ de nouvelles tiges et la glycine choisit généralement entre la fleur et la tige. Il y a quantité de... On a tous en mémoire une glycine qui n'a pas vu ni un jardinier ni un sécateur depuis 30 ans. Elle est couverte de fleurs. De temps en temps, faites confiance à la nature. Laissez faire. C'est un peu comme les coiffeurs. On a longtemps cru qu'aller souvent chez le coiffeur vous donnait des cheveux solides, résistants et j'allais dire, prêts à...
Mais regardez-vous hein.
Voilà où je voulais en venir.
Regardons-nous.
Donc, on ne taille pas immodérément.
Un conseil lecture, Alain.
Eh oui, l'un est jardinier de formation, Patrick Gentil, il fabrique des objets. L'autre est un passionné de jardin, il est libraire. Alain Renouf, ils ont eu l'idée d'écrire un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, Le nom du monde et jardin. On parle tout simplement du jardin, des techniques, mais d'une manière philosophique. C'est savoureux, c'est agréable à lire. C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier.
Merci Alain Baraton et à samedi prochain.